Voici le journal de Marion Ferrer. Bonjour Marion.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une, l'armée russe qui a bombardé sans relâche Mariupol à l'est de l'Ukraine. On va faire un point sur la situation en Ukraine dans un instant, après les autres titres, Marion.
La guerre qui mobilise sur tous les fronts. La ministre des Armées, Florence Parly, est en Roumanie avec les troupes françaises de l'OTAN. Mobilisation aussi dans la rue avec des rassemblements pour la paix dans le monde entier hier. Nous irons à New York où se trouve la plus grande diaspora ukrainienne. La fin du salon de l'agriculture à Paris. Attendez-vous à voir des brebis cet après-midi sur les Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde accueille sa toute première transhumance. Strasbourg, en fait, après 2 ans d'absence, le festival des Giboulées est de retour. Et puis à la fin de ce journal, le sport, une nouvelle médaille aux Jeux paralympiques, l'argent pour Marie Brochet. Brochet, vous pourrez entendre sa joie juste après la descente du Super-G.
Et nos invités, à partir de 8h20, on va essayer de comprendre la situation en Ukraine avec deux invités. Cécile Vessier, elle est professeure en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Invité également, Elie Tenenbaum, il est directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales.
France Inter.
11 jours de guerre en Ukraine et aucun signe de ralentissement des combats. L'armée russe progresse alors que Vladimir Poutine menace encore l'Occident. Tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne sera considéré comme un co-belligérant, assure le chef du Kremlin. Claude Guibal, les Ukrainiens ont passé une nouvelle nuit sous les bombes et la situation est très tendue à Mariupol.
Mariupol, une nuit entière sous les bombes pour les habitants de ce port stratégique de la mer d'Azov. Ils avaient pourtant recommencé à espérer hier avec l'annonce de la mise en place d'un couloir humanitaire qui devait permettre pendant 5 heures d'évacuer les civils de la ville. Il a été reporté pour raison de sécurité. Les autorités russes accusent les forces ukrainiennes de n'avoir pas respecté le cessez-le-feu. La Russie qui a donc repris de plus belle son offensive sur cette ville. À Kharkiv, deuxième ville du pays, plus à l'est, l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive pour tenter de reprendre des positions. Autour de Kiev, toujours des combats. Et puis, à 150 km au nord de la capitale, la ville de Tcherniv, 300 000 habitants, ville martyre pilonnée de façon indiscriminée. Ceux qui se sont rendus sur place parlent de scènes de dévastation, d'un nouveau Grozny, et craignent que la Russie ne cherche à en faire un exemple pour pousser Kiev à se rendre pour éviter le même sort. Un nouveau round de négociations entre Russes et Ukrainiens devrait avoir lieu demain. Ce sera le troisième depuis le début du conflit.
Claude Guibal, au cœur de la guerre, l'OTAN, une menace pour la Russie, selon Vladimir Poutine. Depuis le début du conflit, l'OTAN a renforcé sa présence aux frontières avec l'Ukraine. La ministre des Armées, Florence Parly, est aujourd'hui en Roumanie. Deuxième déplacement en 1 mois et demi. La Roumanie, c'est le pays qui partage la plus longue frontière avec l'Ukraine, Mathilde Hémy.
La ministre française des Armées se rend sur la grande base aérienne de l'OTAN à Constanța, au sud-est de la Roumanie, sur la mer Noire, à seulement 2 heures de route de l'Ukraine. Elle vient saluer les troupes françaises, 500 soldats, notamment des chasseurs alpins, qui vont participer à des opérations de renseignement et de dissuasion. Hier encore, chars et blindés ont débarqué par avion avec du matériel pour construire un campement près des armées américaines et hollandaises notamment. La ministre des Armées sera accueillie par le président roumain qui fait le déplacement. Une visite très suivie par la presse roumaine qui accueille d'un bon œil l'armée française. Florence Parly doit s'entretenir en privé avec son homologue roumain pour parler stratégie, alors que la France, en tant que nation cadre, prend le commandement des forces de l'OTAN dans ce pays.
Mathilde Dehémy.
Paris, Rome, Londres ou Zurich, c'était la mobilisation mondiale hier, mobilisation pour la paix.
Non à la guerre, stop à Poutine. Des dizaines de milliers de personnes, plus de 40 000 en France, ont de nouveau manifesté à travers l'Europe. Des rassemblements prévus aussi tout le week-end aux États-Unis, aujourd'hui à Washington, hier à New York. La Grosse Pomme, où vit la plus importante communauté ukrainienne du pays, près de 150 000 personnes. Des Ukrainiens qui, depuis l'autre côté de l'Atlantique, tentent tant bien que mal de rester en contact avec leurs proches. New York, Loïc Loury.
Des drapeaux jaunes et bleus entre les écrans géants de Times Square. Hier, c'est ici que des milliers de personnes ont afflué. Tatiana, notamment, qui depuis 2 jours est sans nouvelles d'une partie de sa famille.
Nous ne voulons pas la guerre. Chaque jour, des milliers de vies
Nos enfants, ils veulent retrouver leur vie, leur liberté.
À plus de 7000 km de leur pays, ces Ukrainiens ou Ukrainiens d'origine essayent de maintenir le contact, comme Yulia, dont les deux frères ont dû rejoindre l'armée chez eux à Lviv.
J'ai vraiment peur de les perdre. Une partie de moi aimerait qu'ils partent, mais l'autre souhaite qu'ils se battent pour l'Ukraine.
Taras, lui aussi, peut toujours discuter avec ses amis mobilisés dans l'ouest de l'Ukraine, mais se demande-t-il pour combien de temps encore ? C'est l'une des bonnes nouvelles. Internet fonctionne toujours très bien. On peut même se voir de temps en temps en vidéo, parce que sans information, l'esprit a tendance à anticiper le pire. Couper Internet, oui, stratégiquement, c'est ce que je ferais à la place des Russes. Si vous contrôlez les informations, vous pouvez manipuler les gens. Un peu plus loin, sous une banderole, Anna entonne l'hymne ukrainien. L'Ukraine n'est pas encore morte, dit-elle. Voilà le sens de ses paroles. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et l'élan de solidarité est aussi considérable. Partout en France, des convois partent vers les frontières ukrainiennes avec des vêtements, de la nourriture, des produits d'hygiène. Aide organisée par des ONG, des associations, des communes qui sont en contact avec les bénévoles sur place. Un pont humanitaire, Delphine Evenou, s'est mis en place.
Dans le hall de la mairie du 15e arrondissement de Paris, les cartons se remplissent. Anne-Marie et Jean-Luc, trois gros sacs en main.
Ça nous bouleverse de voir tout ça.
Nous, on est des enfants de la guerre. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Il n'y avait pas les images, mais ça rappelle tout ça.
Moi, je n'ai jamais vu une telle mobilisation.
Catherine Duplessis, la directrice de l'association SAFE.
Un camion de 90 mètres cubes part à destination de l'Ukraine. Et il va y avoir des départs, au moins un par semaine, de 90 mètres cubes de matériel apporté par les donateurs, plus des camions complets de nos partenaires, laboratoires, entreprise.
Le convoi de ce week-end est rempli de matériel médical, priorité fixée par les humanitaires en Ukraine, établi à Oujhorod, près de la Slovaquie et de la Hongrie, zone de transit pour les déplacés et véritable plaque tournante de l'aide depuis une semaine. Natalia Kabatsi, directrice du comité d'aide médicale, elle coordonne les actions sur place.
Tout ce qui est matelas, couverture, tout ça, on distribue une partie à des gens qui sont logés ici. Si on reçoit l'aide en alimentation, il y a des cantines populaires qui viennent chercher dans nos stocks. Les restes de l'aide, on forme les camions et on voit vers le sud ou vers l'est.
La région de la Transcarpathie est pour l'instant épargnée par les combats. Environ 300 000 personnes y ont franchi la frontière vers l'ouest depuis le début de la guerre.
Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre aide aux Ukrainiens, vous pouvez vous diriger vers les associations françaises SAFE et Fonds de Mos qui servent d'interface ici avec la ville d'Oujhorod. Face à ce conflit, France Inter et France 2 se mobilisent aussi en soutien au peuple ukrainien, mais aussi envers toutes les populations touchées par cette guerre. Soirée spéciale mardi soir avec un concert exceptionnel présenté par Leïla Kadour Boubadi et Nagui en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Sur scène, de nombreux artistes comme Clara Luciani, Angélique Kidjo, Florent Pagny ou encore Indochine, mais aussi le chœur et la maîtrise de Radio France. Alors, le concert est complet, mais vous pourrez le vivre en direct sur France Inter dès 21h. Unis pour l'Ukraine, une soirée spéciale de solidarité en partenariat avec la Croix-Rouge française.
Le reste de l'actualité avec d'abord en bref cette attaque au couteau en Israël.
L'assaillant a été abattu. L'attaque s'est déroulée dans la vieille ville de Jérusalem. Les forces de l'ordre ont tué un Palestinien âgé de 19 ans. Il tentait de poignarder des policiers postés dans la partie orientale de la ville. L'un d'entre eux a été blessé.
À Paris, vaches, chevaux, brebis s'apprêtent à quitter la porte de Versailles.
Le salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir, mais avant ça, les agriculteurs béarnais ont prévu une dernière surprise, un défilé inédit et unique, la première transhumance sur les Champs-Élysées. Rendez-vous à midi sur la plus belle avenue du monde où 26 bergères et bergers vont accompagner 2022 brebis, des attelages bovins et équins. Et dans les allées du salon, Zeynep Boukzou, on cherche encore des participants.
Il faut venir à partir de midi, c'est exceptionnel. Hein.
Dans le hall 1 du salon de l'agriculture, le stand consacré aux transhumances béarnaises attire des curieux mais aussi de connaisseuses, dont deux sœurs, Emmanuelle.
Moi je suis originaire de Pau, du Béarn, mais j'habite à Paris, mais dimanche je serai sur les Champs-Élysées.
Et Françoise qui habite justement dans le Béarn.
Je suis venue exprès, dès que j'ai su que les 2022 brebis allaient défiler sur les Champs-Élysées. Il faut croire que je suis vraiment attachée à mon pays.
Fière des particularités de sa région, le métier de berger n'a aucun secret pour elle.
Et notre maman, qui a 92 ans, elle est fille de berger. Et donc, elle nous racontait, quand elle était petite, que les bergers de la vallée d'Ossau s'arrêtaient faire une halte chez elle. Et on a été, pendant la transhumance, et souvent, on allait en montagne et retrouver des bergers dont elle nous parlait.
Derrière son stand, Jean-Christophe Lalanne enregistre des inscriptions à un jeu concours pour gagner un séjour dans la station d'Artoust. C'est aussi l'occasion d'attirer le public aux Champs-Élysées.
J'ai aucun mal à les convaincre, je leur en parle, ils sont ébahis par ce qu'on va leur proposer dimanche. Une avenue apparemment que beaucoup de monde connaît ici.
Pour l'occasion, la célèbre avenue est réservée aux piétons de 10h à 17h.
Et on a hâte de voir le résultat. Reportage France Bleu Paris. Le festival des Giboulées de Strasbourg est de retour. Tout premier festival annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. C'était quelques jours avant le tout premier confinement. La biennale consacrée au théâtre d'objets et qui existe depuis 1977 renaît donc en 2022. Stéphane Capron, les artistes en avaient bien besoin.
L'édition 2022 a été rallongée. Elle se déroule sur 16 jours pour permettre au maximum d'artistes de présenter leur spectacle, ce qu'ils n'ont pas pu faire il y a 2 ans. Renaud Herbin dirige le Festival des Giboulées.
C'est avec cette mémoire-là inscrite en nous, cette frustration-là, suspendue en plein vol, que nous reprenons le fil de l'histoire et c'est très important. Nous avons été au travail malgré l'invisibilité de ces 2 ans.
Pendant ces 2 ans, les artistes qui travaillent sur le théâtre d'objets ont pris le temps d'observer le monde. Renaud Herbin a permis à des artistes afghans de quitter leur pays cet été. Il les a accueillis à Strasbourg. De cette rencontre est né Par les bords, le spectacle qu'il présente dans cette édition des Giboulées.
D'un coup, parce qu'ils étaient artistes ou femmes, ils n'avaient plus le droit de pratiquer, plus le droit d'exister même. C'était pas de faire un spectacle sur eux. J'ai beaucoup de pudeur et je cite quasiment pas leur histoire sur scène, mais il s'agit vraiment de pouvoir parler de ces situations, d'être au bord de sa propre vie.
Comment se reconstruire après un déracinement? C'est le thème central du spectacle. Un solo exécuté par le circassien Jean-Baptiste André dans un festival qui développe la relation entre le corps, l'objet, l'image, et qui décloisonne les arts de la marionnette pour l'emmener vers le champ chorégraphique et vers les arts visuels.
Le festival des Giboulées jusqu'au 19 mars à Strasbourg.
Et à 8h12, c'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
On commence ce journal des sports avec les Jeux Paralympiques. Marie Bochet a pu enfin sécher ses larmes.
Et oui, celle qui détient déjà 8 titres hein, paralympiques quand même depuis les Jeux de Sochi était très déçue hier sur la descente après avoir perdu un ski. Mais ça y est, Marie Bochet, elle vient de s'offrir sa première médaille à Pékin aujourd'hui, l'argent en Super G.
J'ai bien évacué. J'ai laissé sortir tout ce qui devait sortir. Et puis j'ai une équipe, je pense qu'on vit des moments hyper forts depuis le Covid en fait tous ensemble parce que on a vraiment cette bulle et du coup on s'est beaucoup rapprochés et on partage énormément de choses et les gars ils vibrent autant pour moi que moi pour eux et quand ils sont arrivés en bas ils avaient les larmes aux yeux pour moi et c'est des choses qui sont hyper importantes. On n'a pas nos familles, j'ai eu mes parents vivants, ils m'ont dit mais dis-leur de te saluer dans les bras. J'ai dit mais il n'y a même plus besoin de leur dire en fait, tellement on est proches et tellement on vibre ensemble donc voilà, j'ai eu le support d'une équipe assez solide hier et qui m'a beaucoup soutenue et puis des super résultats aussi qui ont fait qu'on a quand même retrouvé le sourire dans l'après-midi et qu'on a apprécié cette cérémonie des médailles malgré tout.
Marie Bochet libérée et les gars justement Super G chez les hommes aussi hein, cette nuit. Eh bien Arthur Bochet s'est classé 4e et puis 4e place également pour Yassine Deleplace et son guide Valentin Giromoine. Les épreuves de snowboard ont aussi commencé et bien commencé pour l'équipe de France. Cécile Hernandez première après les qualifications. Maxime Montagioni, 6e.
Laetitia, sur les terrains de football, Nice devient vraiment la bête noire du Paris Saint-Germain.
Et le caillou dans la chaussure du PSG, c'est pas idéal pour Paris avant de défier le Real. Mais oui, les Aiglons se sont offerts le leader de la Ligue 1 hier soir, 1-0 pour la 27e journée de championnat dans une Allianz Riviera surchauffée. Et c'est le 3e match entre ces deux adversaires que Paris ne gagne pas cette saison. Davantage de succès pour l'équipe féminine du PSG, qualifiée pour les demi-finale de la Coupe de France grâce à une victoire hier 3-1 sur Montpellier.
Et puis enfin, on l'appelle la course au soleil en cyclisme, départ du Paris-Nice aujourd'hui.
80e édition, départ dans les Yvelines. Une première explication entre les cadors du prochain Tour de France. Parmi les favoris Primoz Roglic, Nairo Quintana, chez les Français, Guillaume Martin qui attend son heure pour la victoire.
J'espère qu'elle est pour cette semaine, oui. J'ai peu couru en début de saison, mais à chaque fois j'étais à l'avant, offensif, et j'ai été chercher des résultats. Je suis passé vraiment pas très loin la victoire dimanche dernier, donc la condition est vraiment bonne et je compte bien en profiter, oui. Après, je sais qu'il y a des circonstances de course, surtout sur un Paris-Nice où il y a de la tension, il risque d'y avoir du vent, donc des bordures. Donc il y a moyen de perdre du temps, on va dire, sans faire exprès. Mais j'ai pas encore gagné, donc à mon tour maintenant.
Départ du Paris-Nice à 13h10, 160 km au programme de la première étape. Deux roues toujours, mais avec un moteur cette fois. C'est reparti pour le championnat du monde de MotoGP, premier Grand Prix au Qatar cet après-midi. L'Espagnol Martin partira en pole position et le champion du monde en titre, le Français Fabio Quartararo sur Yamaha, n'a lui réalisé que le 11e temps des qualifications, 13e temps pour Juan Zarco. Le journal des sports, Laetitia Bernard, merci.
Dans le journal de Marion Ferrer, le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Avec du beau temps en général, Jean-Michel Golinski.
Exception faite des régions pyrénéennes où l'ambiance va rester maussade, des Alpes du Sud à la Corse où des averses vont mouliner une bonne partie de la journée. Sur le reste du pays, retour d'un temps sec et variablement ensoleillé après une matinée encore émaillée d'ondées sur la façade atlantique. En fin de nuit, les températures étaient positives sur la moitié ouest et autour de la Méditerranée. En revanche, les gelées étaient fortes à l'est, vers moins 4 près des frontières, moins 5 sur la Bourgogne, la Champagne et la Haute-Loire, moins 6 à moins 7 des Vosges à la Haute-Saône. Cet après-midi, les valeurs à l'abri du vent d'est sensible vont afficher 10 à 14 degrés du sud-ouest à la Provence et sur la Corse, et 8 à 10 plus au nord.
Et Jean-Michel Golinski, Météo France.